l'histoire des évangélistes de masse américains du XXe siècle, et le plus célèbre d'entre eux, bien sûr, Billy Graham. Nous étions arrivés au moment où, en 1954, devait se tenir à Londres une grande campagne d'évangélisation, la première que, en fin de compte, Billy Graham faisait hors de son pays. Et nous avions vu que les choses se présentaient plutôt mal, et que toute une campagne de presse très hostile avait été lancée contre cette campagne qui, au départ, était bien partie et qui, là, avait amené nombre d'églises qui s'étaient associées au projet à abandonner en cours de route cette situation. Et Billy Graham, donc, est arrivé très inquiet, se demandant comment les choses allaient évoluer. Et lorsqu'il est arrivé à la gare de Waterloo, à Londres, il a été reçu par une foule absolument enthousiaste, ce qui a déjà contribué à lui mettre un peu de baume au cœur. Il avait choisi délibérément un petit hôtel à bon marché, parce que un des chefs d'accusation qui lui était reproché par la presse anglaise en particulier, c'était évidemment, comme souvent le font les Européens d'ailleurs, en France aussi on aura le même phénomène, c'était de faire ce qu'il faisait pour de l'argent. Donc il avait voulu montrer que là, au contraire, il vivait d'une façon modeste. Et donc, le soir de ce premier, de son arrivée, il a donné une grande conférence de presse à Westminster devant 150 journalistes. Et il a réussi, au cours de cette conférence de presse, à désamorcer l'hostilité dont il était l'objet de la part des journalistes. Et au contraire, les journalistes sont passés de son côté. De telle sorte que il a même été invité à s'adresser à la Chambre des communes, c'est-à-dire au Parlement anglais. Et le 1er mars 1954, il a tenu donc la première réunion de cette campagne qu'il avait programmée devant une arène pleine à craquer à Westminster. Il avait choisi comme thème de prédication pendant toute cette campagne « Est-ce que Dieu s'inquiète, s'occupe de ces choses-là, en quelque sorte ?» Les auditoires ont grandi régulièrement, si bien que à la fin de la semaine, il y avait 35 000 personnes à peu près à la réunion. Et à la fin de la campagne, 2 millions d'Anglais avaient participé à l'ensemble de ces réunions. L'archevêque de Canterbury, qui était donc la plus grande personnalité de l'Église d'Angleterre, l'a reçu personnellement, a eu le désir de s'entretenir avec lui. Et le 3 avril, il a eu même l'occasion d'organiser d'une manière impromptue une grande réunion à Trafalgar Square. Vous savez, ce grand parc anglais, cette grande place anglaise où finalement n'importe qui peut dire n'importe quoi, monter sur une caisse à savon au milieu de la place et puis haranguer la foule, c'est très courant, c'est pas, ce qui montre d'ailleurs le degré de liberté dont on jouait en Angleterre à côté de ce qu'est la France. Hein. Et là donc, spontanément, 12 000 personnes se sont rassemblées sans qu'ait été programmée une réunion. Même chose à Hyde Park, qui est aussi un parc de Londres où il y a la même liberté d'intervention. Et l'ensemble de sa campagne à Londres a duré 12 semaines. Les dernières réunions ont rassemblé jusqu'à 100 000 personnes. Et des membres de la famille royale sont venus assister à quelques-unes de ces réunions. C'est à partir de la campagne de Londres de 1954 que le ministère de Billy Graham a eu une dimension mondiale, une renommée mondiale. De Londres, Billy Graham est venu à Paris, où il a tenu une semaine de réunion au Vélodrome d'hiver. Bien sûr, il a eu un certain impact, mais la France n'est pas l'Angleterre. Et il n'y a pas eu, évidemment, le même retentissement à Paris que ce qu'il y avait eu à Londres. De là, il s'est rendu à Helsinki, en Finlande, où il a rassemblé aussi des auditoires de 30 000 personnes. La presse finlandaise a qualifié ces réunions de plus grand rassemblement religieux de toute l'histoire du pays. À Stockholm, il a rassemblé des auditoires qui ont oscillé entre 45 000 et 100 000 personnes. Même chose à Copenhague, à Amsterdam, où il a été invité par pasteur Wisser-Hooft, qui était le responsable du Conseil œcuménique des Églises. Il s'est rendu ensuite à Berlin, où il a rassemblé là aussi entre 80 000 personnes à peu près, dont 20 000 étaient venus de l'Est, de Berlin-Est. Berlin-Est, Berlin était coupé en deux à cette époque-là, mais à cette époque, le mur, le fameux mur, n'existait pas. Ça veut dire que les gens de l'Allemagne de l'Est pouvaient passer librement en Allemagne de l'Ouest, à Berlin. Et ainsi donc, il y a pu y avoir 20 000 auditeurs qui sont venus de Berlin-Est. Pour l'année suivante, donc, encouragé par ce grand succès, il a envisagé alors des grandes, très très grandes campagnes. Le 12 mars 1955, il quittait New York pour l'Écosse pour une campagne de 6 semaines à Glasgow, donc des capitales de l'Écosse, où il a rassemblé jusqu'à nouveau 100 000 personnes, puis à Windsor, qui est une résidence aussi de la famille royale. Et là, la reine Elisabeth, l'actuelle reine, l'a invité à venir prêcher en privé, donc devant la famille royale rassemblée. Famille royale qui en avait bien besoin, quand on voit ce qu'elle est devenue par la suite. Puis de là, il s'est rendu en Allemagne, en Scandinavie, en Hollande, en Suisse, etc. Et là, il a parlé aussi devant des auditoires d'étudiants. Avant de se rendre ensuite l'année suivante, là c'était le grand essor de son ministère mondial. En janvier 56, il était à Bombay, puis à Madras, donc dans des pays qui n'étaient pas des pays chrétiens. Là, il a rencontré le président de l'Inde de l'époque, le Pandit Nehru. Puis il s'est rendu aux Philippines, où il a aussi prêché l'évangile à un rassemblement qu'on a qualifié de plus grand rassemblement religieux dans toute l'histoire des Philippines. Il s'est rendu à Formose, où il a rencontré le président Chiang Kai-shek, qui se disait chrétien, etc. C'était vraiment la personnalité religieuse mondiale la plus connue dans le monde entier, à partir de ces années, du milieu des années 50. Parallèlement à ces campagnes d'évangélisation, Billy Graham a commencé un travail de diffusion du message de l'Évangile par la page imprimée. C'est en 1952 qu'il a rédigé le premier livre qui devait être un best-seller mondial jusqu'à aujourd'hui et qui s'appelait « La paix avec Dieu ». La paix avec Dieu dans lequel il exposait, il répondait en quelque sorte aux questions essentielles de l'homme sur Dieu, sur le salut, sur la Bible, etc. Et donc là, il a ce livre a été en bénédiction à des millions de personnes dans le monde entier. Il continue encore à être diffusé. Il n'a pas vieilli d'un pouce, il n'a pas pris une seule ride depuis 1952, parce que il est profondément ancré dans la Bible, et personnellement, j'estime que La paix avec Dieu est le meilleur que jamais écrit Billy Graham. Pour un coup d'essai, c'était un coup de maître. C'est son beau-père qui avait une expérience dans l'édition, qui a pris en charge tout le département édition de son organisation. Et c'est en 1957 que Billy Graham a organisé, alors a décidé de frapper un grand coup en Amérique même, et d'organiser une grande campagne d'évangélisation à New York même. Pour ça, il a loué le Madison Square Garden, qui était un des principaux stades de New York, immense stade, n'est-ce pas ? C'était un pas de la foi extrêmement important. À New York, tout le monde parlait de cette campagne, soit en bien, soit en mal. Et c'est aussi dans cette occasion qu'il avait rassemblé 17 églises dans un conseil qui s'était créé à New York pour la campagne de 1957. Il avait donc ici décidé que la campagne durait 6 semaines, du 15 mai au 30 juin. Il y a eu des oppositions de la part de deux importantes communautés non protestantes de New York, la communauté catholique d'abord et la communauté juive d'autre part. Billy Graham donc est allé voir le représentant, des principaux représentants religieux de la communauté juive, le rabbin Tannenbaum, et il a réussi à désamorcer l'hostilité de la communauté juive. Il a même réussi à faire de ce rabbin Tannenbaum un de ses amis. Les prédications qu'il a données ont été reprises par la presse jour après jour. La presse résumait ou passait l'intégralité de ses prédications dans les journaux. Vous imaginez une chose pareille en France, évidemment. Et la campagne de 1967 a bouleversé New York de fond en comble. On avait, depuis 30 ans, disaient les journaux, on n'avait pas vu un tel événement à Londres, à New York. Il y avait, outre les réunions qui se tenaient dans le grand stade, il y avait des réunions dans les rues, parfois plus ou moins improvisées. On se pressait autour de lui. Et en fait, lorsque le terme de la campagne est arrivé le 30 juin, on a les responsables étaient tellement enthousiasmés par ce qu'ils voyaient, il y avait une telle soif, qu'ils ont supplié Billy Graham de continuer. Et par conséquent, on a continué jusqu'au 20 juillet. Donc on a joué les prolongations. Et là, donc, Billy Graham est arrivé jusqu'à l'extrême limite de ses forces physiques, n'est-ce pas ? Il y avait des auditoires de 100 000 personnes et davantage tous les soirs. On est arrivé jusqu'à des points de 200 000 personnes. Là aussi, il y avait plus de 2 millions de personnes qui, pendant ces quelques semaines, avaient eu l'occasion d'entendre l'Évangile. Et c'est à cette occasion-là que la célèbre chanteuse noire Ethel, n'est-ce pas, s'est convertie. Elle est devenue ensuite une des collaboratrices de Billy Graham, une chanteuse de Negro Spirituals. Le problème, évidemment, c'est que très souvent, comme c'était le cas dans ces campagnes de Billy Graham, nombre de pasteurs n'assuraient pas véritablement le suivi de ceux qui avaient pris des décisions. Et bon, c'était souvent les campagnes de Billy Graham étaient des grands coups de trompette, mais bon, ce qu'il en restait concrètement n'était pas toujours à la hauteur des espérances que l'on pouvait caresser quand on voyait des succès comme celui qui avait marqué la campagne de New York de 1957 en particulier. Devant le succès de cette campagne, Billy Graham a reçu des invitations pour l'Australie, la Nouvelle-Zélande, où il s'est rendu donc l'année suivante. Et à Melbourne, il a aussi rassemblé des auditoires extrêmement nombreux, sous des pluies torrentielles d'ailleurs. En 4 semaines de campagne, 500 000 de personnes ont eu l'occasion d'entendre l'Évangile. C'est là qu'il a rassemblé des auditoires aussi parmi les plus nombreux auxquels il a eu l'occasion de s'adresser. En Nouvelle-Zélande, il a eu des auditoires de 150 000 personnes et entre ces deux pays, il a touché 3 millions de personnes. On a recensé 150 000 décisions. Bien entendu, ce qu'il en est resté après, ça c'est autre chose. En 1960, il a lancé donc un journal qui s'appelait Décision. Un journal qui était au départ en anglais, puis ensuite qui a été traduit dans de multiples langues, dont une édition française qui, si je ne m'abuse d'ailleurs, doit encore exister à l'heure où nous parlons. Les années 60 ont été marquées par le souci que Billy Graham a eu pour l'Afrique. L'Afrique qui était alors en plein processus de décolonisation et par conséquent dans un état qui souvent était proche de l'anarchie. C'était au moment des graves événements du Congo ex-belge en particulier. Et donc là, il a eu à cœur de visiter l'Afrique. Il a centré son ministère sur l'Afrique. Un certain nombre de pays, comme le Soudan, par exemple, ont refusé tout simplement de le recevoir. Au Libéria, on venait de créer une station missionnaire de radio, s'appelait Radio Eloi, à laquelle Billy Graham a apporté son soutien, où il a eu l'occasion de prêcher. Le Ghana aussi est un pays d'Afrique où il a été rejeté. Le président de l'époque était très anti-occidental et très anti-chrétien en particulier. Un chef musulman lui a eu l'occasion de lui dire « Nous allons éjecter les chrétiens de l'Afrique et nous les remplaçons. » Billy Graham était très alarmé par cette menace qu'il a prise très au sérieux et en son retour, il a encouragé les chrétiens à se préoccuper de l'Afrique pour ne pas la laisser tomber justement entre les mains de l'islam. Et les événements que nous avons vécus depuis montrent qu'il avait vu juste. À partir de ces années-là aussi, Billy Graham a eu un autre souci, c'était celui de l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud, où depuis 1958, les relations avec l'Église catholique étaient très tendues. Depuis la fin de la guerre, de nombreuses missions américaines tentaient d'évangéliser l'Amérique du Sud, mais des États sud-américains avaient des pouvoirs catholiques qui étaient persécuteurs, qui n'hésitaient pas à mettre les chrétiens non catholiques à mort. Et c'était un peu une gageure pour Billy Graham d'aller prêter son appui à ces missions qui vivaient souvent dans des conditions extrêmement précaires. Il a donc commencé une première campagne dans les Caraïbes, en particulier à la Barbade, en 1958, avec dans ses bagages justement la fameuse chanteuse de Negro Spirituals, Ethel Walter, dont nous avons parlé tout à l'heure, qui s'était convertie en 1957 à New York. Puis en 1959, il s'est rendu dans un certain nombre de pays d'Amérique du Sud, Venezuela, Équateur, Pérou, Chili, où il a été pris d'ailleurs dans des incidents politiques, mais il a réussi à rassembler des auditoires extrêmement importants. Billy Graham s'est bien gardé dans ses campagnes d'Amérique du Sud de ne jamais attaquer les catholiques. Et cette ligne de conduite s'est révélée payante parce que, justement, il a désarmé l'hostilité que les catholiques pouvaient avoir contre lui en particulier. À son retour, donc, il a entrepris une campagne d'évangélisation à Chicago, qui était le centre nerveux du christianisme américain, mais aussi du libéralisme et du catholicisme. Là, il a eu l'occasion de s'entretenir avec le cardinal archevêque de la ville, qui lui aussi est devenu son ami et qui a contribué à désamorcer l'hostilité que les catholiques peuvent avoir à son endroit, non seulement en Amérique du Nord, mais également en Amérique du Sud. Néanmoins, la même année, ça n'a pas empêché qu'en Argentine, il a été l'objet de manifestations hostiles qui ont rassemblé des milliers de personnes contre lui. Au Paraguay, il a tenu la première réunion protestante depuis le début de l'histoire du pays, qui, nous le savons, a été fondée par les jésuites. Et puis, de là aussi, il a eu à cœur d'évangéliser les pays qui étaient, à cette époque-là, derrière le rideau de fer. Et en 1969, il s'est rendu à Moscou, pour un voyage touristique, au fait qu'il lui était offert par un ami. Et là, dès son arrivée à l'aéroport, il a rencontré des chrétiens qui étaient persécutés à cette époque-là. Il n'a toutefois pas été autorisé par les autorités communistes de prêcher, pas même dans l'église baptiste de Moscou. Il faut dire que, contrairement à ce qu'il faisait pour les catholiques, il avait souvent attaqué le communisme dans ses prédications. En 1966, donc, il a eu l'occasion pour la première fois de prêcher dans un pays communiste, qui était la Pologne, puis en 1967, en Yougoslavie. Il faut dire qu'à cette époque-là, c'était l'époque aussi où il était pas mal manipulé par les présidents américains, notamment par John Kennedy, qui le manipulait pour des raisons personnelles par rapport aux pays de l'Est. Notamment, il a été amené aussi, ensuite du temps de la présidence de Nixon, de se rendre au Vietnam pour prêcher aux soldats américains, mais enfin bon, dans des conditions aussi qui n'étaient pas exemptes d'arrière-pensée politique de la part du pouvoir américain qu'il avait envoyé là-bas. En 1969, a lieu à Miami un festival de rock. Et Billy Graham va s'y rendre pour parler de l'Évangile à ces jeunes qui sont des jeunes marginaux. Les années 60-70 sont des années de grands bouleversements où apparaît la contre-culture américaine en particulier. Billy Graham se rend sur les campus où ces gens-là se manifestent. Et c'est ainsi qu'en 1968, après les événements qui vont marquer Paris, en particulier la France, Billy Graham reviendra en France, prêcher ou s'adresser aux étudiants français, donc aux 68ards. La même année, il se rend en Irlande, et puis ensuite en Afrique du Sud. Et en 1966, a lieu à Berlin un congrès de l'évangélisation mondiale qu'il préside. À cette occasion aussi, il va tenir une grande campagne d'évangélisation dans cette ville de Berlin, qui, elle, est aussi le centre de la guerre froide à cette période-là. Puis à Johannesburg, en plein cœur de l'apartheid, On voit bien que, on voit que Billy Graham se rend dans tous les points chauds du monde pour y apporter le message de l'évangile et essayer de désamorcer aussi un peu de cette manière-là les passions. Les années 70 sont aussi marquées par la croissance de l'influence de la télévision. Et Billy Graham, qui partage l'illusion de nombreux évangéliques que la technique est neutre, c'est l'usage qu'on en fait qui lui donne une valeur morale, bonne ou mauvaise, Billy Graham a toujours été très attentif à toutes les nouveautés technologiques pour essayer de les employer par l'Évangile. Et c'est ainsi que, en 1970, il programme une grande campagne d'évangélisation dite simultanée en Europe. Et il s'agit pour lui de toucher l'Europe comme elle n'a jamais été touchée. Et il pense que l'influence de la télévision peut le faire. Et c'est ainsi que le centre de sa campagne doit être Dortmund, en Allemagne. Mais les réunions qui auront lieu à Dortmund doivent être relayées par un système de télévision en circuit fermé dans les principales villes d'Europe, de telle sorte qu'il pense ainsi pouvoir s'adresser au public européen dans son ensemble. En fin de compte, cette campagne qui aura lieu donc à l'automne de 1970 ne sera pas du tout à la hauteur des espérances qu'il avait caressées. Et notamment, il est obligé de se rendre compte que rien ne remplace le contact direct avec le public et que si à Dortmund, c'est-à-dire le lieu où le public a la possibilité de l'entendre directement, les choses marchent à peu près bien comme c'est le cas dans la plupart des autres campagnes d'évangélisation, là où on ne voit qu'une image sur un écran, le résultat est infiniment plus médiocre, n'est-ce pas ? C'est aussi l'époque où Billy Graham commence un peu, enfin, à s'interroger sur ses relations avec les présidents américains. Et plus tard, il décrira qu'il n'a pas suffisamment écouté la voix intérieure qui lui disait de ne pas se mêler des combats politiques. C'est ainsi qu'il soutiendra Mordicus Nixon, dont il deviendra un des amis personnels d'ailleurs, ce qui l'amène à plusieurs reprises d'ailleurs sur la demande de Nixon de se rendre au Vietnam pour aller voir les Américains, les soldats américains, ce qui lui vaut d'ailleurs aussi parfois des menaces et qui l'amène à être mal perçu dans certains endroits parce que trop engagé politiquement. C'est le cas notamment quand il veut retourner, bien entendu, dans les pays de l'Est. Et c'est ainsi qu'en 1977, un médecin hongrois veut le faire prêcher à Budapest et à Moscou. À Budapest, il finit par obtenir l'autorisation, et c'est la première fois, donc en 1977, que Billy Graham peut entreprendre une campagne d'évangélisation, comme il a l'habitude de le faire ailleurs. Il va rassembler jusque entre 15 000 et 30 000 personnes. C'est moindre, évidemment, qu'ailleurs. Mais enfin, pour les pays de l'Est, c'est déjà pas si mal. L'année suivante, en 1978, il se rend en Pologne, où il va prêcher dans 6 grandes villes, avec la neutralité bienveillante de l'Église catholique, qui est extrêmement puissante. Il rencontrera à cette occasion l'évêque de Cracovie, Karol Wojtyła, qui deviendra plus tard pape sous le nom de Jean-Paul II, et qui le reçoit courtoisement, disons. Il se rend ensuite au début des années 80 à Moscou, où il va rencontrer le patriarche Pimène, qui est le patriarche de l'Église orthodoxe, mais qui est un agent du KGB, et qui va essayer en quelque sorte d'utiliser Billy Graham comme les présidents américains ont essayé de l'utiliser. Et il convainc de faire depuis Moscou un appel commun pour la paix, bon, ce qui est une manière aussi de le manipuler. Et Billy Graham se rend compte un peu tard que, bon, il est en danger de devenir aussi, par ce moyen-là, un des instruments du Parti communiste. Il décide de revenir à Moscou, à condition de pouvoir prêcher dans l'église baptiste et de rencontrer aussi les juifs du silence, les juifs qui sont persécutés, pour lesquels aussi il s'engage. Évidemment, le pouvoir accepte à condition qu'il dise dans la presse qu'il y a une liberté religieuse qui existe dans les pays de l'Est, ce qu'il fait. Évidemment, ça déclenche une tempête. Dans des gens comme Brandt vont prendre parti contre lui, etc. en octobre 1982, en Allemagne de l'Est, il est reçu très froidement par des pasteurs luthériens, qui vont ensuite changer. Et puis, en 84 aussi, il retourne en Russie, où on lui demande, c'est très intéressant, les chrétiens là-bas lui demandent d'insister davantage sur la résurrection, parce que on trouve que son message insiste trop sur la croix, et là-bas, les frères, qui sont marqués par la théologie orthodoxe, disent que la croix sans la résurrection n'a pas de sens. C'est très intéressant parce que finalement, c'est la même interpellation que celle qu'on a reçue des orthodoxes quand on est allé, nous, bien des années plus tard. De là aussi, donc, Billy Graham deviendra l'ami personnel du couple Reagan. Et à l'en croire, un soir, les Reagan l'auraient réveillé en pleine nuit pour qu'ils viennent leur parler de leur âme et de leur salut. Admettons. Admettons. Et c'est ainsi que Reagan, le 23 février 1983, lui remettra la plus haute distinction qu'un Américain puisse recevoir. Bon, il semble tout de même que Billy Graham, le petit paysan de Caroline du Nord, ait eu la tête qui lui a un peu tourné quand il a vu tous ces présidents américains, ces grands personnages, s'intéresser à lui, etc. Et que là, ça a été le point faible de son ministère, semble-t-il, cette manière de se laisser manipuler, disons le mot, par les puissants de l'heure. En 1989, c'est l'effondrement du communisme. Et donc, Billy Graham y voit des possibilités nouvelles de prêcher l'évangile derrière ce qu'était le rideau de fer. Et c'est ainsi qu'en juin 88, il est reçu par Gorbatchev en personne. Et en 1991, il rencontre Eltsine, qui lui dit qu'il n'est plus communiste. Et en octobre 92, dans le grand stade olympique de Moscou, il engage donc une grande campagne d'évangélisation. Il y aura 50 000 personnes, dont 20 000 resteront à l'extérieur pour écouter l'Évangile. Billy Graham a été assez rapidement engagé dans une forme d'œcuménisme. Il a d'ailleurs participé à différentes assemblées du Conseil œcuménique des Églises, notamment celle de New Delhi. Et il a participé à la création d'alliances évangéliques diverses. Le congrès de Berlin aussi, qui était présidé par l'empereur d'Abyssinie, Haïlé Sélassié, a été aussi une de ses préoccupations. Et il était persuadé que l'évangélisation était la chance de ce siècle, c'était un petit peu sa pensée. L'évangélisation de masse était le seul moyen d'empêcher l'évolution négative qu'il entrevoyait du monde. Il disait, nous sommes responsables d'évangéliser la race humaine pendant cette génération. En 1971, avait eu lieu à Amsterdam un congrès évangélique aussi, où il avait essayé de faire passer cette vision. Puis en 1974, il avait aussi présidé le congrès de Lausanne, congrès évangélique de Lausanne, qui regroupait 24 000 représentants du monde entier pour prendre en main justement l'évangélisation du monde avant la fin du siècle et du millénaire. Dans ces années-là aussi, Billy Graham a eu l'occasion de se rendre en Chine, en 1980 d'abord avec sa femme pour un voyage touristique, puisque sa femme était née en Chine, puisque son père était missionnaire là-bas. Il a pu obtenir un visa touristique dans ce pays. Il a pu rencontrer Lin Peng, qui était un adjoint de Mao Tse-tung, qui était le président de la Chine à cette période-là, Mao Tse-tung étant déjà mort. Et Lin Peng lui aurait dit que la Chine avait besoin de forces spirituelles et morales, et par conséquent, selon Billy Graham, aurait été ouvert à son message. Bon, enfin, ça c'est évidemment dit en termes diplomatiques, et les Chinois sont doués aussi pour la diplomatie plus que d'autres encore. Et il a reconnu que la liberté religieuse n'a pas toujours été respectée en Chine. Il lui a donné néanmoins l'occasion de prêcher dans 5 grandes villes du pays, et Billy Graham a pu constater qu'il y avait une grande croissance de l'Église en Chine. Il a eu l'occasion de se rendre dans la mission qui avait été fondée par son beau-père et où sa femme donc était née. Et Billy Graham pensait que le christianisme avait une chance historique de combler le vide laissé par l'effondrement du communisme dans les pays qui avaient été marqués par lui. Et c'est ainsi que son plus jeune fils s'est consacré à l'évangélisation de la Chine. Jusqu'à aujourd'hui, c'est son souci premier. Un des pays aussi fermés dans lequel Billy Graham a pu se rendre relativement vite, c'était la Corée du Nord. Dès 1992, cette nation qui était entièrement athée, qui était une des plus fermées aux visiteurs occidentaux, s'est ouverte. Beaucoup de chrétiens, la plupart des chrétiens qui étaient dans ce pays avaient fui dans le sud. Et sa femme y avait passé quelques années pendant sa jeunesse, quand son père était là, était en Chine. Et il a pu se rendre en Corée du Nord, rencontrer le président de l'époque. Puis en 1994, il s'est rendu à nouveau dans ce pays. Et il a eu l'occasion à plusieurs reprises de visiter la Corée, mais sans évidemment que ça débouche sur des possibilités d'évangélisation particulières. En 1995, il a pu évangéliser aussi Cuba. Il a rencontré Fidel Castro, qui se serait montré ouvert, paraît-il, à son message. Et il a cette même année qu'il a reçu du Congrès américain aussi la plus grande récompense que ce Congrès puisse accorder à un citoyen américain. Bon, depuis cette période-là, donc, Billy Graham a vieilli, c'est certain, comme tout le monde. Et c'est son fils Franklin qui est devenu évangéliste et qui doit logiquement lui succéder. Petit à petit, Billy Graham réduit ses activités, bien entendu, et c'est son fils qui prend de plus en plus les rênes des choses, introduisant évidemment des nouveautés, des nouveaux styles de musique, des nouveaux styles de sketch et de théâtre, etc., par rapport auxquels son père est toujours resté un peu prudent, même si dans les dernières années, il les avait plus ou moins adoptés. Il vit en Caroline du Nord, d'une manière assez simple finalement, et donc continue une activité évidemment à la mesure des problèmes de santé. Il est atteint d'une maladie de Parkinson qui sont encore évidemment qui l'empêche de faire les voyages nombreux qu'il avait depuis le début de son ministère. Voilà donc, si vous voulez, en gros, ce qu'on peut dire de Billy Graham, qui a été donc le grand homme de Dieu, le nom de référence de ce siècle, mais aussi, bien entendu, avec un certain nombre de failles, comme beaucoup d'hommes de Dieu. C'est évident que personne n'est parfait, et Billy Graham n'a pas la prétention de l'être. En tout cas, c'est un homme qui est resté très humble aussi, reconnaissant volontiers les erreurs qu'il avait pu commettre, et reconnaissant qu'il en avait commis. Bien, nous allons aborder donc toujours dans l'histoire du protestantisme américain, non charismatique, un autre grand nom sur un autre plan. Alors, si Billy Graham était un grand nom sur le plan de l'évangélisation, le grand nom du protestantisme américain non charismatique de ce XXe siècle est Francis Schaeffer. Francis Schaeffer était, lui, au contraire, un penseur, plus qu'un théologien, on peut dire, véritablement un penseur. Reagan, qui avait une certaine ouverture à l'Évangile, même si on peut penser qu'il y avait beaucoup d'intérêt politique, a pu dire de lui que c'était le plus grand penseur chrétien de ce siècle, et de cette génération. Billy Graham était d'accord aussi avec cette affirmation. Francis Schaeffer est né le 30 janvier 1912 de parents qui étaient d'origine anglo-germanique et qui étaient peu soucieux d'éduquer leur enfant dans la foi chrétienne. Ils étaient tout à fait indifférents. Il était le fils unique de gens qui étaient modestes et qui le destinaient, comme le père, à un métier dans le bâtiment. Ce qui fait que toute sa vie, Francis Schaeffer a eu, bien qu'étant un intellectuel de haut niveau, un grand respect pour le travail manuel. Il a été donc orienté très vite vers un enseignement technique et professionnel, où il s'est révélé un très très brillant élève, et s'est spécialisé dans le dessin industriel, la menuiserie, la construction. Il avait un ami, alors qu'il avait à peine 17 ans, qui était originaire de Russie, qui parlait très mal l'anglais, et qui lui avait demandé à l'école de l'aider à apprendre l'anglais. Donc pour aider son camarade, il avait acheté une grammaire anglaise. Et en même temps, il y avait un ouvrage d'introduction à la philosophie grecque qu'il a acheté par la même occasion. Il a lu cette introduction à la philosophie grecque et il s'est passionné pour la philosophie grecque. Si bien que l'ouvrier du bâtiment qu'il était a commencé à s'interroger sur le sens de la vie. Chose tout à fait intéressante, il s'est mis à cette époque-là à participer à une troupe scout qui appartenait à une église presbytérienne libérale. Et il a commencé par ce moyen-là à entendre parler de l'évangile. Mais bon, ça lui a paru quelque chose de beaucoup moins intéressant que la philosophie. Et au bout d'un temps, ayant fait le tour de ce qui se prêchait dans cette église, il a décidé de tourner le dos au christianisme et de quitter cette église évangélique, cette église presbytérienne. Mais par honnêteté, souci d'honnêteté intellectuelle, il a dit qu'il ne pouvait pas tourner le dos au christianisme sans avoir quand même lu la Bible. Et c'est ainsi qu'il s'est mis à lire la Bible. Et en 6 mois, donc, il a lu la Bible en 6 mois, cette lecture a été absolument déterminante pour lui, notamment la lecture du livre de la Genèse. Et là, il a compris que jamais aucun livre de philosophie n'avait répondu d'une manière aussi précise aux questions que l'homme se posait. Il a découvert un livre qui donnait un sens à sa vie, qui était cohérent, beaucoup plus cohérent, c'est ce qui l'a frappé dans la lecture de la Bible, que tout ce qu'il avait pu lire jusqu'alors. Et c'est ainsi qu'en 6 mois, il est devenu chrétien. À l'été 1930, il est entré dans une tente d'évangélisation, et là, il a découvert un autre évangile que celui auquel il était habitué, l'évangile libéral qu'il avait entendu dans l'église presbytérienne. Et là, il s'est dit, mais ce que est en train de prêcher ce prédicateur, c'est exactement ce que moi, personnellement, j'ai découvert quand j'ai lu la Bible. Aussi, quand le prédicateur a fait l'appel, à la fin de la réunion, il a été le premier à se lever et à donner sa vie au Seigneur. Il a découvert, comme il l'a dit plus tard, dans la Bible, le seul système qui donnait la seule réponse possible aux questions fondamentales que l'humanité se pose depuis tous les temps. Or, non seulement Francis Schaeffer s'est alors converti, mais il s'est senti appelé au service de Dieu et il a fait part de sa décision à ses parents. Évidemment, ses parents n'ont pas trouvé ça de leur goût, eux qui étaient tout à fait opposés aux choses de Dieu, et il a donc dû passer outre à l'opposition de ses parents. Ainsi, à l'automne 1931, il a commencé des études de lettres. Il prenait des cours du soir de latin et de grec, parce qu'il n'était pas question pour lui, évidemment, d'entreprendre des études. Ses parents, il n'était pas question qu'ils lui en payent. Et finalement, son père finira par se convertir après bien des années où il aura été véritablement persécuté par lui. À côté de cela, Francis Schaeffer a voulu vivre l'Évangile. Et il s'est mis à enseigner la Bible à des enfants noirs, des enfants défavorisés. En 1932, il a rencontré une jeune fille qui s'appelait Edith Seville, dont la mère avait été missionnaire en Chine, et qui était née elle-même en Chine d'ailleurs, où son père était devenu pasteur d'une église méthodiste, et ils se sont fiancés, et ils ont fini par se marier. Francis a passé, au bout d'un certain temps, brillamment sa licence de lettres, et il a commencé à entreprendre des études de théologie. Mais là, c'était l'époque où il y avait de graves tensions dans les églises presbytériennes des États-Unis entre une branche qui était libérale et une branche qui se voulait évangélique. Un de ses maîtres a même été menacé de procès pour avoir présidé un service religieux indépendant et il a dû donc démissionner. Francis a démissionné avec lui et il s'est joint à la branche évangélique de l'église presbytérienne d'Amérique qui venait donc de se créer. Pour financer les études de Francis, sa femme faisait des travaux de couture. Et là, Francis Schaeffer s'est trouvé confronté avec un problème qui ne le quittera jamais pendant toute sa vie. Il était certain que l'Église presbytérienne du Sud, comme on l'appelait, avait choisi la voie de la vérité, mais il avait constaté que la rupture entre les deux tendances de l'Église, la tendance libérale, l'Église évangélique, avait provoqué des graves tensions, des antagonismes et des inimitiés profondes. Et tout son souci, pendant tout le reste de son ministère, sera de combattre pour la vérité, mais de combattre dans l'amour, de ne se jamais laisser aller à un combat qui serait passionnel, qui serait teinté d'hostilité. Et pour lui, c'était son grand problème, comment concilier la sainteté, le combat pour la sainteté, le combat pour la vérité, avec le combat de l'amour. Il a constaté que cet amour faisait gravement défaut et qu'il avait des grands problèmes relationnels, y compris entre les églises d'Amérique entre elles. Et par conséquent, il a voulu essayer de concilier ces deux choses. Et de fait, jamais, même dans les controverses les plus chaudes qu'il a pu avoir, Francis Schaeffer ne s'est départi de ce calme, de cette affection pour son adversaire. Très vite, Francis Schaeffer s'est rendu compte que la pensée du XXe siècle était marquée par le déterminisme. Il a voulu créer donc un mouvement qui essaierait de rétablir la vérité par rapport à ce domaine-là. Il est devenu donc, en 1937, à l'été 1937, il est devenu pasteur d'une petite église en Pennsylvanie, petite église puisqu'il y avait 21 membres. Il a essayé de toucher les étudiants de l'université proche, ça a été un échec total, et quelques temps après, il a pu agrandir, n'est-ce pas, l'église, mais c'était quelque chose de très, très, très difficile. En 1941, il a changé d'église, il est devenu pasteur d'une autre église en Pennsylvanie, puis il est devenu modérateur de l'ensemble des églises presbytériennes de la région des Grands Lacs. Modérateur, c'est-à-dire qu'il était ce qu'on appellerait aujourd'hui dans l'église réformée française, président de région. C'est en 1942 que son père s'est converti. Cette même année, il a recueilli aussi un enfant mongolien et il a commencé à exercer aussi un ministère de guérison miraculeuse en noyant d'huile une petite fille qui était incurable. Et il a souvent prié depuis lors pour les malades. Et en 1943, il a créé un groupe d'enfants pour Christ. C'était le nom qu'il avait donné à cette organisation. Juste avant que ne s'achève la guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale s'est achevée, et il a été nommé directeur pour l'Europe du Conseil des Églises chrétiennes. Le Conseil des Églises chrétiennes avait été créé justement pour voir comment il serait possible d'aider les églises d'Europe qui avaient été ravagées par la guerre à se reconstruire donc à la fin de la guerre, et les églises américaines étaient prêtes donc à prêter leur concours. C'est dans ces années-là aussi qu'il avait pris parti contre l'antisémitisme hitlérien en écrivant un petit livre qui s'appelait « Le chrétien et le juif ». Et c'est donc en tant que membre de ce comité directeur du Conseil d'Église chrétienne qu'en 1946, Francis Schaeffer a effectué son premier voyage en Europe pour voir comment justement aider les églises d'Europe. Et parmi les attributions qui étaient les siennes, c'était de voir aussi comment les églises d'Europe pouvaient lutter contre le libéralisme. Lorsque Francis Schaeffer est arrivé en Europe, en cette année 1946, il a découvert qu'à Genève, trois pasteurs seulement encore croyaient à l'autorité de la Bible, dans la cité de Calvin. Il a été absolument atterré. Et là, il a assisté à la première réunion de ce qui devait devenir plus tard le Conseil œcuménique des églises. L'année suivante a eu lieu en Norvège une convention de jeunesse européenne présidée par Wisseruft, qui était le président du Conseil œcuménique des Églises. Et il s'est rendu compte que la plupart des jeunes chrétiens qui étaient là-bas avaient tous des cheveux blancs et que par conséquent la situation était loin d'être brillante. Là, Francis Schaeffer a été confronté aux idées de Karl Barth et à la réinterprétation socialiste de l'Évangile qui était faite par ce fameux congrès de jeunesse, jeunesse étant mis entre guillemets, bien entendu. Et c'est alors qu'à son retour de ce congrès qui avait eu lieu en Norvège, son comité directeur lui a proposé de devenir leur missionnaire en Europe. Et c'est alors que Francis Schaeffer a accepté de devenir le président du Comité international d'Église chrétienne en Europe. La première réunion de ce conseil a eu lieu en 1948 à Amsterdam, et Francis Schoeffer a eu un an pour le préparer, avant de devenir donc résident en Europe en février 1948. Après la guerre, il a constaté que les églises d'Europe étaient animées par deux soucis premiers. D'abord la paix à tout prix, pourrait-on dire, alors que des menaces, évidemment, de guerre planaient encore sur l'Europe à cause du rideau de fer. On était en pleine guerre froide. Et puis, deuxièmement, l'unité. L'unité aussi, pourrait-on dire, à tout prix. C'était les deux préoccupations de l'Église d'Europe, traumatisée par la guerre. La paix à tout prix, ça voulait dire compromis avec le communisme, et le communisme hitlérien, le communisme stalinien en particulier, donc le pire. Et on fermait les yeux sur ce qui se passait. Et là, Francis Schoeffer a compris qu'il devait combattre pour la vérité. C'est alors qu'il fit la connaissance de celui qui est devenu un de ses plus proches collaborateurs, le docteur Koop. Et là, il arrive donc en Europe où il s'installe à Lausanne, où il crée aussi un groupe d'enfants. C'est l'époque où en Suisse, le baptisme bat son plein. Et en 1949, il assiste à un synode de l'Église réformée des Pays-Bas qui le bouleverse, l'atteste. Qui est tout entier dominé par la pensée de Barthes. Comme Francis Schoeffer veut être parfaitement honnête dans son combat pour la vérité, avant d'engager le fer contre la théologie de Karl Barth, il estime qu'il est normal qu'il s'entretienne avec Karl Barth lui-même. Et ainsi, donc, il demande un rendez-vous au maître, avec lequel il a un très très long entretien pour lui dire toutes les réserves qu'il a quant à sa théologie et pour l'avertir qu'il va donc rédiger un ouvrage qui s'appelle « Les grands thèmes de la Bible » dans lequel il va combattre sa théologie. Francis Schoeffer est aussi donc quelqu'un qui a ses bons côtés mais ses mauvais côtés comme tout le monde. Il est particulièrement passionné par l'art. Et il va pousser beaucoup, n'est-ce pas, à la reconstruction d'un art chrétien. Il va pousser des jeunes chrétiens à s'engager dans la création artistique. Et il faut bien dire qu'il n'est pas entièrement étranger à ce à quoi on assiste aujourd'hui, ce qui pour nous est une déviation, n'est-ce pas, l'évangélisation par les arts. Bon. En 1950, il écrit donc un premier ouvrage, premier de ces grands ouvrages qui vont marquer, qui s'appelle « Qu'est-il donc arrivé à la race humaine ?» où il fait le parallèle entre la Shoah, dont l'Europe est encore meurtrie, l'avortement, l'euthanasie, l'infanticide, qu'il voit pointer avec une vision prophétique véritable. Il a un ministère, il exerce un ministère auprès des soldats américains qui sont stationnés en Europe, En 1950, il se rend à Rome pour assister à la promulgation du dogme de l'Assomption par le pape Pie XII. Là, évidemment, c'est toujours le même souci d'honnêteté intellectuelle qui l'amène là-bas. C'est pour mieux combattre, évidemment, ce qu'il considère comme étant une des graves dérives du catholicisme de ce siècle. En 1951, il remet en question certaines méthodes d'évangélisation et il pose la question, comment peut-on apporter l'évangile quand les églises, pour la plupart, ont besoin d'être évangélisées parce qu'elles se sont détournées de la Bible. Et il écrit donc un livre qui s'appelle « L'Église sous le regard du monde et la véritable spiritualité ». Dans ces livres, il défend la thèse selon laquelle la Bible couvre tout le champ de la pensée et de l'activité humaine. Et c'est de cette réflexion qui est amorcée dans ces deux livres que naîtra l'œuvre de sa vie, l'Abri, n'est-ce pas, dans laquelle il va consacrer l'essentiel de son ministère par la suite. Cette même année, 1952, il se rend en Espagne, au Portugal, qui sont sous la coupe des deux dictateurs qui sont restés de la Deuxième Guerre mondiale, Franco et Salazar, et où les églises non catholiques sont persécutées. Et alors il constate à sa grande stupéfaction que ces églises persécutées sont elles-mêmes atteintes par le libéralisme théologique qui, pour lui, est la mort de l'église. C'est en 1953 qu'il prend son premier congé pour les États-Unis. Et là, la prédication qu'il adresse dans son église d'origine entraîne une quasi-rupture avec cette église, parce que cette église a aussi évolué, évidemment, dans le sens du libéralisme. En 1954, l'année suivante, la rupture est totalement consacrée, tellement qu'il n'a même plus de quoi se payer le prix de son voyage de retour. Il y a une véritable campagne de dénigrement contre lui. Et c'est alors qu'il reçoit une parole de Dieu dans Ésaïe 2, où le Seigneur lui parle par ce texte, où il est question de la montagne de Sion, qui sera un lieu où les nations afflueront. Et le Seigneur lui montre par ce texte qu'il est appelé à créer un centre en Europe où on viendra de partout, du monde entier, n'est-ce pas, comme dans la Jérusalem future, pour y enseigner la parole de Dieu, car de Sion sortira la Torah et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Et c'est de cette vision d'Ésaïe 2 que naît l'abri, la vision de l'abri qu'il va concrétiser ensuite. Toujours à partir de sa vieille intuition que le christianisme embrasse véritablement tous les domaines de l'existence et que par conséquent il n'est pas question de laisser un seul domaine hors de la souveraineté de Dieu dans la vie du croyant. Donc en décembre 1948, Francis Schaeffer revient en Europe et là il entre en contact avec des étudiants souvent étrangers avec le christianisme de telle sorte qu'il se rend compte que il y a besoin d'un lieu pour que ces étudiants puissent venir faire part de leurs questions, de leurs préoccupations. Et c'est ainsi qu'ils décident donc de créer l'abri, en janvier 1955, de créer un centre. Ils se rendent dans le Valais, où, sans argent, par la foi, puisqu'il est en rupture de banc avec son église, il loue un chalet, qu'il appelle l'abri, donc, où il reçoit ses étudiants paumés, n'est-ce pas, qui viennent souvent drogués ou en rupture de banc avec leur famille, etc., et qui viennent se récupérer là. Mais le Valais est un canton catholique, et les autorités catholiques prennent ombrage de son action, et il est l'objet d'un avis d'expulsion en tant qu'étranger. Il a quelques jours pour quitter le canton. Le motif de sa condamnation, propagation et agitation religieuse. Il est donc banni. On lui reproche son influence religieuse sur la population. Francis Schaeffer et sa femme font un sujet de prière de cette affaire. Et finalement, ils arrivent à faire en sorte que l'édit d'expulsion soit reporté. Et même, ils trouvent à Huénez, à quelques kilomètres de là, un grand chalet qui s'appelle les Mélèzes, qu'ils achètent uniquement par la foi, alors qu'il ne leur reste plus qu'un dollar en poche. Là, c'est vraiment un pas de la foi extraordinaire. Et là, donc, ils se rattachent à l'église presbytérienne indépendante, et le Seigneur pourvoit miraculeusement et merveilleusement pour l'achat, justement, de ce grand chalet. Et à partir de là, un filet de visiteurs commence. Il a un autre couple avec lui, le docteur Sévi et sa femme, qui s'occupent de l'administration. Lui vit plus ou moins de son ministère d'aumônier auprès des soldats américains. Et là, le filet grandit, tant et si bien qu'en 1957, il faut créer un deuxième chalet qui s'appelle le Beau Site. En 1958, il crée à Londres la branche anglaise de l'abri, dans lequel vont se rendre de nombreux étudiants anglais. Ronald McCulley qui deviendra son successeur. Puis ensuite, un troisième chalet est agité, il s'appelle Les Sapins, qui est une ancienne propriété qui était celle d'une secte indienne qui a périclité et qui est achetée dans les débuts des années 50. À partir de là, Francis Schaeffer va entreprendre un ministère itinérant, notamment dans nombre d'universités. Souvent, il commence les débats sur l'évolution en disant ceci, je n'ai pas assez de foi pour croire que tout ce qui existe est le fait du hasard. C'est son point de départ. Au printemps 1968, il organise à l'abri la première des grandes conventions qui ont rassemblé 450 participants cette année-là. Et où, des études qu'il va donner cette année-là naîtra un de ses ouvrages qui s'appelle Dieu, illusion ou réalité. Et puis, démission de la raison et enfin mort dans la cité. Transworld Radio, la radio chrétienne, donc, reprend ses écrits qui vont être traduits en plus de 20 langues. C'est là que son ministère va entreprendre, va avoir une dimension absolument extraordinaire. Il est invité un peu partout, y compris donc par Reagan, qui entend parler de lui, et il s'adresse et est devenu un des speakers attitrés du Congrès américain. Bon, on va peut-être s'arrêter là pour ce soir, si vous voulez, avant de continuer, donc, Francis Schaeffer. Est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus ?